Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 en espérant que vous ayez passé une belle journée. On bâtit sur samedi et dimanche. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé côté température. Pour les gens qui capotent à faire de la moto, ben samedi et dimanche, ce sera deux beaux jours de congé où on pourra sortir notre cheval de fer. Donc, on lâche pas, on lâche pas. Benoît Thérien de Truck Stop Québec, la belle gang de Truck Stop Québec, passe la prochaine heure avec nous autres. On va aborder plein de sujets. 418-971-101, si vous avez des questions à nous poser. Et on sera là pour répondre à vos questions, bien entendu. Mais d'ici là, ben, on va le rejoindre Benoît Thérien, qui est dans le confort de son studio chez Truck Stop Québec. Salut, Ben!
Salut Yannick, comment ça va?
Ça va très bien. Hey, je me posais des questions parce que Truck Stop Québec, ça fait longtemps que vous existez. Vous êtes une maudite belle gang. J'ai le plaisir de vous jaser à chaque lundi. Et je me posais des questions à savoir, est-ce que vous avez déjà fait une playlist de camionneurs? Qu'est-ce que les camionneurs aiment écouter comme musique?
J'ai fait une tentative, Yann, à un moment donné. J'ai dit, envoyez-nous vos tunes de truck. On va bâtir une playlist. J'avais comme 200 tunes à mettre dans l'application Spotify pour ne pas la nommer. J'ai abandonné après 50 tunes. Je me suis dit, tabarnouche, là, tu sais. Je suis pas sûr que du monde vont écouter. Puis, tu sais, entre du rock et entre, mettons, toutes sortes d'autres types de musique, qu'elles soient rock ou country ou tout ça,
ouais.
Ça devenait un peu bizarre à écouter. Quoique j'aurais pu tout splitter ça, le rock avec le rock, le country avec le country. Mais dans un truck, on dirait que la grosse mode est restée du country ou du new country. Même si les gens accrochent quand même encore à des années 80 dans le rock.
Ouais, c'est ça. J'imagine que le AC/DC roule à pleine pine dans le truck. Là.
Ouais. C'est plutôt rare qu'on va entendre, mais ça peut arriver, mais du boum-boum à l'intérieur d'un truck. C'est pas impossible parce qu'il y en a qui aiment la musique, mais généralement, ça va être du country, du new country ou du rock des années 80 ou même du rock un peu plus progressiste là, qu'on a depuis quelques années déjà.
Oui. Mais quand tu sais, vous autres, vous faites des festivals de camionneurs. D'ailleurs, Truck Stop, vous êtes commanditaire principal d'un des festivals du camionneur qui fonctionne très bien. Ça s'appelle comment votre festival déjà?
Ça s'appelle le Super Party Camionneur. J'en suis co-actionnaire avec Julien Alain Lefebvre. Et depuis 4 ans qu'on est à la barre de ce festival-là.
Ouais.
Et oui, c'est vrai que ça attire énormément de monde. Puis je me plais à le dire, Mont-Laurier est une petite municipalité, ben, une ville là, à côté de Ferme-Neuve. Puis quand on fait la fin de semaine qui s'en vient les 31 mai, 1er 2 juin, ben il n'y a plus rien qui se passe à Mont-Laurier. Le monde quitte la ville pour venir à 21 km de là, pour venir festoyer avec nous autres pendant toute la fin de semaine.
Non, mais tu sais, je veux dire, quand tu fais ton choix de programmation musicale pour les bands que tu vas inviter, tu sais, t'as pas le choix de savoir c'est quoi les principaux goûts des camionneurs puis des camionneuses, là, tu sais, sans quoi ton festival pourrait pas nécessairement fonctionner. Tu sais, on parlait de musique tantôt, je suis pas sûr que les camionneurs trippent vraiment sur la musique techno, là. Ce sera pas très vendeur d'avoir un DJ qui va passer du techno. Il peut y en avoir peut-être à un certain moment pour faire danser les bizarroïdes, mais pour la plupart du temps, c'est du country. Il peut avoir aussi du québécois, là, tu sais. Je pense que des tunes d'Éric Lapointe, ça fonctionne toujours encore à ce jour, même si des fois, l'individu, on n'est pas trop sûr.
Mais regarde, Éric Lapointe fera partie de la programmation cette année. Quoique, l'année passée, on se questionnait, est-ce qu'on l'emmène, on l'emmène pas, puis il y avait eu son histoire que tout le monde connaît. Fait qu'on a demandé un report d'une année. On s'est dit, bon, on regardera en 2024 si ça fonctionne. Bizarrement, là, Yann, puis je te donne une confidence à toi et tes auditeurs, quand on a mis en vente les billets d'Éric Lapointe, c'est à peu près 90-95% de femmes qui ont acheté les billets. En tout cas, nous autres, parce qu'on voit en ligne qui achète. Si je vois qu'il passe un Yannick Marceau, bien, je me dis que c'est toi qui l'as acheté. Mais c'était tout le nom de femmes qui achetaient les billets d'Éric Lapointe à un tel point que en dedans d'une semaine, on aurait quasiment pu dire ça le compte. Fait que ça serait. Mais quand on a annoncé après ça Matt Lang, qui est une figure très connue dans tout ce qui est country, puis nous autres, on le savait pas, mais ça tombe comme 3 semaines après le lancement qui a eu lieu cette semaine du nouvel album. Fait que là, ben c'est comme pile ou face là-dedans. Hein? Puis ça aussi, on a vendu du billet, puis on en vend encore quotidiennement. Lendemain de veille, Entre Vin de Veille, qui est un groupe où tout le monde est sur le party, c'est un groupe où ça doit jouer d'un troc, là, tu sais. Puis je serais curieux de demander à tes auditeurs si vous écoutez Lendemain de Veille dans vos camions. Puis Rick Hughes, qui est un petit peu le pendant rock d'Éric Lapointe, qui va réchauffer l'assistance avant qu'Éric Lapointe vienne. Mais tu parlais d'un DJ tantôt. Bizarrement, tu sais, le boom-boom, là, on n'est pas tous friands de ça, OK? Mais pour notre clientèle là-bas,
ouais,
ça va faire la troisième édition que notre DJ vient sur place. C'est Daniel Desnoyers, que tu as probablement connu dans des bars.
Ben oui, ben, il a fait des compilations pas mal aussi, là, ouais. DJ Dan Desnoyers.
C'est ça. Puis Dinoy, comme on le surnomme, ben Dinoy, ça va faire la troisième fois qu'il vient. Puis je te mens pas, Yann, c'est incroyable comment... Tu sais, mettons, bon, l'année passée, il y avait Paul Daraiche. Paul Daraiche fait des balades, tout ça. Ça attire une clientèle. Puis quand Paul a terminé, ben les gens d'un certain âge sortent du site. Mais Daniel Desnoyers embarque, ben ça rentre tout sur le site. C'est comme il y a quelque chose dans son animation puis dans sa fougue qui fait en sorte que jusqu'aux petites heures du matin, tu tripes puis t'as du fun.
Exact. Je veux dire, l'idée, c'est que tout le monde s'amuse. C'est le festival du camionneur à Ferme-Neuve. Puis, est-ce que les gars, quand ils vont, parce que moi, j'ai vu ça passer à Saint-Joseph, là, il y a des gens qui arrivent avec leur campeur, mais il y a des gars qui arrivent avec leur camion, puis eux autres, leur hôtel, c'est leur camion. En majorité, est-ce que c'est encore ça dans les festivals?
C'est encore ça. Nous autres, on a des centaines de terrains de camping qui, depuis un mois, sont déjà complets. J'ai parlé pas plus tard qu'hier avec la municipalité, avec les gens de la municipalité, puis là, ils me demandaient comment ça allait. Bien, on est un peu victime de notre succès cette année. On n'a plus aucun terrain de camping. On nous a même ouvert des parcs à 1 km. On a dit, bien, ils rentrent peut-être encore 100, 200 VR dans ces parcs-là. Fait qu'on va vous les ouvrir, on va vous donner ce que ça prend, là, tu sais, pour... parce que... Faut pas se leurrer, tu sais, même si, bon, dans le but d'un festival, c'est que tout le monde ait du fun, mais c'est aussi les retombées économiques que ça apporte dans une région.
Ouais.
Disons que s'il y a 15 000 festivaliers qui viennent chez nous et qui dépensent chacun 100$ dans la municipalité, que ce soit dans l'épicerie, dans le dépanneur, dans l'essence, dans toutes sortes de choses, ben c'est de l'argent neuf à chaque année pour la municipalité. S'il y a des campeurs qui, mettons, toi, tu dirais, bon, ben, j'habite Ferme-Neuve, j'ai une maison, puis il peut rentrer 4 VR chez nous, 100$ chaque pour la fin de semaine, bien, tu viens de te faire un beau 400$ pour la fin de semaine, sans trop avoir travaillé fort, tu plugues une hausse sur les VR, puis ça se termine là, puis même pas besoin de courant, ou si tu veux le fournir, tu le fournis avec des frais de plus. Fait que tout le monde y gagne au change là-dessus. Fait que c'est un peu ça. Fait que tout le monde... Ça va être une belle fin de semaine. Puis je vais t'inviter en plus si ta moto est sortie.
C'est ça. Mais c'est à peu près combien de temps de Québec? Là? Mettons, d'ici à Montréal, on calcule la moto, je suis capable de le faire en 2h10, 2h15. Là. Puis on rajoute quoi, un 2h supplémentaire?
Oui, rajoute un 2h de Montréal. Je l'ai fait de Plessisville à là-bas en 4h. Fait que on est à peu près à 90 km de distance un de l'autre. Fait que, bon, mais toi, tu es en ligne droite. Quand tu embarques, c'est à 40, c'est d'un bout à l'autre. Fait que, mettons, à 101 km/h, comme tout le monde roule, bon, mettons 115, 116, 117, bien, en 2h10, oui, tu es arrivé à Montréal. Après ça, bien, tu montes dans le nord, puis c'est pas tellement long. 2 heures plus tard, tu es arrivé.
Moi, je roule à 119, Ben. Me fais jamais achaler par la police.
119? OK. Puis check bien ça, à partir de demain, tout le monde va se faire écœurer à 119.
Ouais. Hey, Joe, au lendemain, Ben, si on permettait aux camionneurs de rouler à 119 km/h, là, ben, admettons, au même titre là, que les automobilistes, donc on tolérait jusqu'à 120 km/h, est-ce que ça améliorerait le transport?
Ça, c'est une maudite bonne question, Yann. En 2007, l'industrie du camionnage a demandé à la ministre Boulet à l'époque de réduire à 105 km/h les camions. Ceux qui veulent être en bas seront en bas, mais qu'il n'y a personne au Québec qui pourrait dépasser en camion 105. Je le sais, il y en a qui roulent plus vite, mais en tout cas, ça c'est un autre débat.
Ben, c'est des Américains, mais, là, les Américains qui roulent plus vite. Là.
Les maritimes, les compagnies des maritimes,
ouais.
110, 115, ils n'ont pas le droit, mais il ne faut pas juste pas se faire prendre. Sauf que les camions, quand ils sont bâtis... Puis il n'y a jamais personne qui a pu me répondre à cette question-là. À 105, là, ça veut dire que ton camion roule à un régime de, je ne sais pas, au moins 1300, 1400 ou 1500 tours, peu importe là, comment on est guiré en bon français. Fait que, puis il y en a même à 1200 tours, 1300 tours. Fait que si tu roules à cette vitesse-là, OK, que ton camion est très énergivore parce que tu es bloqué à 105, bien, qu'est-ce que tu veux, c'est plate à dire, c'est comme ça. Quand on bâtit un camion, souvent, on met des specs. Bon, mais ma compagnie roule 105 ou 104. Est-ce que 108, c'est plus économe que 105? Dans bien des cas, probablement que oui, parce que tu as le bon régime de moteur, il est à sa pleine force, tandis qu'à 105, il est comme pas au bout de ce qu'il est capable d'accomplir. Fait que, mais rouler 119, on serait moins des plaies sur les autoroutes. Aux États-Unis, on serait moins des plaies sur certaines autoroutes, mais l'industrie en a décidé ainsi, il faut s'y faire. On nous a vanté les mérites d'économie de carburant à cette époque-là et de la sécurité routière. J'en conviens, on aurait peut-être plus d'accidents à des vitesses plus élevées ou on irait peut-être plus loin dans le médium qu'on appelle, là, et ça serait peut-être plus difficile à aller nous chercher. Mais je ne crois pas qu'un jour, on va voir la vitesse augmenter des camions, puis je ne crois pas non plus qu'on va devenir comme aux États-Unis. Même les lobbies américains essayent de réduire la vitesse des camions. L'OIDA, qui est l'organisme qui chapeaute tous les voituriers indépendants, c'est la Owner Operator Independent Association. Bien, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se paye des bons avocats, des bons lobbies pour essayer de ne pas avoir une limite de vitesse ces camions. Puis, ils se battent fort là-bas. Ici, bien, ça a été un petit peu imposé. Aujourd'hui, bien, on vit avec ça, que si tu veux, ça fait partie de la game. Mais quand je vois du speed limit à 75 ou à 80 000 à l'heure aux États et que 105, c'est équivaut à 62, 63 000 à l'heure, on est un petit peu des plaies dans le chemin. Okay. Est-ce que là, les compagnies pourraient, mettons, investir dans une switch ou même par la télémétrie? Aujourd'hui, on a de la télémétrie dans le camion. À la limite de tel état, c'est 70 000 à l'heure. Le camion se débarre à la vitesse que la compagnie choisira. Au Québec, c'est 105. On réduira à 105, c'est
ouais. Simplement ça. Je comprends que il peut y avoir des principes de base de sécurité, puis ça a longtemps été étudié, mais quand tu roules à 105 avec un chargement complet, bon, c'est sûr que quand tu vas freiner, ça va peut-être prendre une distance plus longue de freinage. Mais si tu es vide, qu'est-ce qui t'empêche quand tu es avec ton camion vide? Il n'y a pas de remorque, rien. Tu as juste ton camion. Qu'est-ce qui t'empêcherait de rouler à 119?
Absolument rien, tant qu'à moi.
Rien, rien, absolument à rien.
Moi, j'ai travaillé pour des compagnies où ce que le camion était barré par principe à 120. C'est sûr que sur le cruise control, quand ça va bien, on met ça à 120. C'est comme ça. On veut gagner du temps. C'était pas une question d'économie à l'époque. C'était pas une question de sécurité. C'était tout simplement une question de rapidité ou d'efficacité. À 120, bien, on sait que point A à point B, ça va se faire en moins de temps. Puis quand on parcourt de longue distance, si tu fais 10 heures à 120, bon, on comprend que tu as un peu plus de kilométrage de fait que 10 heures à 105. C'est normal, c'est comme ça. Mais moi, je pense que ça devrait être une option. Et au Québec, ben, de ce que j'en comprends, c'est que on a peut-être imposé... Tu sais, mettons, là, je t'assis d'un camion. Puis pour des raisons X, l'assureur me dit « tes camions roulent trop vite ». Dans le chemin, t'es une plaie, tout ça. T'es-tu capable de baisser la vitesse pour réduire le nombre d'accidents que tu as par année? Parfait, je vais mettre ça à 100 km/h. Mais la compagnie, avec le beau troc, le chrome, les lumières, tout ça, passe à côté de toi à 115. Ton chauffeur, qu'est-ce qu'il fait? Il a le même prix ou à peu près la même chose à la fin de l'année. Bien, il cogne à la porte où ça roule plus vite, puis il dit « Bonjour, j'aimerais offrir mes services. » Mais là, on est tout égal. Là, c'est juste la couleur du troc qui change, puis le type de travail, puis destination. Fait qu'il y a peut-être moins de compétition rendue là que le beau truck qui te dépasse à 115 ou à 120. Puis c'est le fun de voir, là, tu sais, un camion rouler cette vitesse-là. Puis tant qu'à moi, est-ce que c'est dangereux? Quand tu es sur une autoroute, généralement, tu es pas mal tout seul. Au milieu de la nuit, la seule affaire que tu pourrais accrocher, c'est peut-être un chevreuil. Ça serait peut-être la seule affaire. Puis ou à moins que quelqu'un marche dans le milieu de l'autoroute, mais généralement... il n'y a pas de règles de sécurité non. tellement qui affecteraient ça.
Parce que pour des tronçons de route quand même assez droits, à 120 km/h, tu conduis là-dessus pendant 5 heures, tu sauves une heure, là.
Oui.
Tu sauves une heure, ça paraît, là. T'sais, c'est une heure de moins, c'est une heure de plus que le chauffeur peut profiter, là.
Oui, puis le stress que produit actuellement le dépassement qui prend 20 km entre deux trucks, parce que l'autre ne veut pas réduire sa vitesse, parce que lui-ci, il veut arriver à son point B pour la fin de la journée, bien, l'autre essaie de dépasser. C'est long, mais ça crée un stress pour rien. Puis, tu es toujours en train d'essayer de chicaner avec les autres usagers de la route parce que tu n'es pas assez vite pour dépasser. T'sais. Est-ce que 105, c'est une bonne vitesse? Peut-être. Mais est-ce qu'on pourrait avoir sur la pédale un 5, 6, 7 km de plus le temps de dépasser, puis après ça, on nous remet à 105? Je pense que ça pourrait être des options qui pourraient être discutées éventuellement. Puis est-ce que l'industrie est prête à aller là? Peut-être qu'on a sauvé énormément sur les coûts d'assurance qu'on ne veut peut-être pas aller jusque-là. T'sais. Il y a plein de facteurs. Les assurances, les cow-boys au volant, puis la sécurité routière fait en sorte. Puis aussi, ben, il y a des entreprises qui disent on ne veut pas aller là parce que ça rouvre la porte à nos compétiteurs de rouler plus vite. Je perds des chauffeurs, ils s'en vont dans l'autre compagnie. Fait que, il y a tous ces petits bouts de questions-là qu'on met côte à côte. Est-ce que l'industrie voudrait aller là? Moi, je suis pas sûr. Mais est-ce que des plus petite taille d'entreprise de 5, 6, 7, 10 camions irait là. D'après moi, on aurait quelques-uns qui diraient « J'aimerais ça retourner à du 115, 120 km/h. »
Benoît Therrien de Truck Stop Québec, une dernière question pour ce qui est de la technique, là, pour ce qui est de nos chers camionneurs. Sur Henri IV, des fois, je remarque deux comportements pour ce qui est de nos camionneurs. Puis, tu sais, c'est positif. Il n'y a rien de négatif à ça. Moi, je les aime, les camionneurs, tu le sais. Des fois, je vois les camionneurs qui sont capables, un samedi ou un dimanche matin où il n'y a pas un chat sur la route, les camionneurs sont capables de monter à la côte à 80-90 km/h. La côte d'Henri IV, je parle, pour s'en aller vers les ponts, là, donc direction sud. Puis, samedi, dimanche, des fois aussi, je vois des camionneurs qui sont pas capables de monter à plus que 30 ou 40 km/h. Sais-tu que les chauffeurs sont différents? Il y en a qui sont plus expérimentés puis sont capables de maintenir une vitesse qui est correcte. Puis les nouveaux, des fois, sont pas capables de se donner une swing sur le sens du monde. Comment ça fonctionne? Pourquoi il y en a qui sont capables de la monter à 80-90? Puis pourquoi il y en a d'autres qu'à 30-40, là, tu te revires quand tu passes à côté d'eux puis ils ont la transpiration bien évidente dans le front?
C'est eux autres qui pédalent plus vite pour avancer. Non, on fait bien des farces, mais tout est une question de poids et de moteur dans le camion. Ça veut dire que des fois, on a des plus petits moteurs avec moins de chevaux vapeur. Puis quand on arrive des fois des régions, mettons, qui pourraient être le Saguenay ou le Lac-Saint-Jean, bien, on ramène souvent d'aluminium qui est très pesant. Il y a d'autres types aussi de produits qu'on ramène. C'est ultra pesant. Fait que quand tu montes la côte d'Henri IV et que tu es rendu à peu près à 20 000 à l'heure, tu es sur les quatre flashers, puis que tu essaies de la monter, le camion, il est au maximum de son régime, il est au maximum de la force qu'il est capable. Okay. Lui, il va tenir ça à 20 000 à l'heure ou 20 km/h, puis il va monter jusqu'en haut.
Okay.
Puis rendu en haut, il pourra changer de vitesse.
Donc, c'est pas le manque d'expérience du chauffeur.
Non, okay. Non. Ben, ça pourrait être jusqu'à une certaine période dans la côte, mais après ça, un chauffeur expérimenté augmenterait ses vitesses, c'est que, bon, c'est un peu comme un bicycle à pédale. Quand tu es sur ta cinquième vitesse puis que tu forces pas trop, ça avance bien. Là, tu montes une côte, tu aimerais s'en descendre une, mais tu n'es pas capable de remonter en cinquième parce que ta quatrième ou ta troisième va faire en sorte que tu vas avoir plus de force. Bien, tu vas pédaler plus, mais tu vas avoir plus de force pour avancer. Mais tu n'auras pas nécessairement plus de vitesse. Ceux qui passent à côté comme des balles, bien, c'est probablement qu'ils sont vides ou qui n'ont pas de pesanteur tellement grosse ou grande pour monter la côte. Fait que quand il y a un camion qui est très slow à la montée, dites-vous une affaire, c'est parce qu'il est chargé, puis il est probablement très proche de la limite qu'il peut charger. Puis là, ben, il faut qu'il monte la côte. C'est pareil comme quand on parcourt des régions montagneuses aux États-Unis, la Pennsylvanie, puis tout ça, puis qu'on est chargé comme ça, puis par choix d'entreprise, on a des plus petits moteurs, bien, c'est pas mal plus long, tu sais, monter et côte. Les redescendre, ça va bien, ça nous pousse, mais les monter, bien, il faut changer de vitesse, puis il faut être capable de la monter puis de se rendre en haut. Puis l'hiver rajoute un petit peu de complexité là-dedans en mettant un peu de glace sur Henri IV, ben là, ça devient plus complexe pour un camionneur. Mais tout est une question de physique là-dedans.
Ouais, je comprends ça, puis c'est pas pour chialer sur le métier de camionneur. Non. Mais des fois, quand on connaît pas votre métier, on se dit, ben voyons, non, toi, le céleri qui est à 30 km/h dans la côte alors que tout le monde va à 100 à côté de lui, tu sais. J'étais persuadé, moi, c'est parce qu'il ratait son swing.
Il y en aurait beaucoup parce que... Puis, il y a une affaire quand on... Si, tu sais, il y a des blocs appartements là, dans la côte d'Henri IV, ils doivent en voir à journée longue là, qui sont en train de monter à la côte difficilement. Puis imagine quand tu arrives, toi, puis que tu es un camionneur, puis tu as une bonne pesanteur en arrière, puis que l'autre est à 30 km/h dans la côte. Tu arrives en arrière, tu mets ton clignotant pour aller dans la voie du centre, mais là, il y a un automobiliste qui décide de ne pas se tasser. Puis tu en as juste assez là, pour essayer de le dépasser. Fait que tu vas dans la voie de centre, puis là, l'automobiliste t'empêche, fait que tu restes en arrière de l'autre, et là, tu montes à 20-25 km de la côte jusqu'en haut, puis tu vas travailler bien fort pour dire, bon, ben si je veux le dépasser, mais là, tu n'as plus de puissance, tu es au maximum de couple entre le moteur puis tes vitesses, fait qu'il n'y a plus de chance d'être capable de dépasser. Si tu dépasses, tu vas être à peu près à la même limite, ou rendu en haut, tu vas être peut-être à l'égalité de l'autre camion, ça n'aura rien donné.
Autre question, votre honneur, je pensais que c'était la dernière que je te posais, mais on va y aller. Parfois, dans des côtes, on voit qu'il y a des avertissements pour les camionneurs de ne pas toucher aux freins par respect pour les citoyens aux alentours. Pourquoi on émet ce genre de demande-là pour les camionneurs?
Ça, Yann, là, ce qu'on appelle le frein moteur, le Jake Break en bon français, ça, je peux te dire une affaire, là, c'est pour des citoyens qui restent en bordure d'une route qui est une descente. Là. Dans Beauce, il y en a plusieurs. Puis de ces enseignes-là, il y en a plusieurs aux abords de beaucoup de municipalités où utiliser le frein moteur sans exagérer. Parce que, bon, un frein moteur, c'est une switch qu'on a dans le dash, qu'on allume. Et aussitôt qu'on enlève le pied de sa pédale, ben ça donne... en fait, ça inverse un peu le système de fuel. Puis ça freine. Ça fait l'explosion quand le cylindre n'est pas rendu en haut, c'est quand il est rendu en bas pour le retenir. Fait que je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ça crée une force inverse. Et le Jake Brake, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il émet un son beaucoup plus fort qu'en temps normal quand on entend un camion. Tu sais, un camion, vous allez l'entendre, il y a un nombre de décibels X, et quand on applique le Jake Brake, ben, c'est sûr que, puis, tu sais, moi, j'habite dans un quartier résidentiel. Puis je sais que la grande route est à peu près à un kilomètre de chez nous et je les entends des fois. Je me dis, puis on n'est pas d'une côte ici, on est sur un chemin bien plat. Je me dis, est-ce qu'on a besoin d'aller là? Mais, tu sais, c'est une bébite rare, un camionneur. Ça l'aime, ces sons-là. Ça l'aime d'avoir un son d'exhaust modifié. Ça l'aime. On passe notre vie là-dedans. Fait qu'il faut avoir un peu de fun. C'est sûr qu'à 4 heures du matin, c'est pas l'idéal d'allumer le frein moteur. Puis le grave problème en 2024, c'est que par l'abus de certains, je pense qu'on paye un peu tout pour ça. Est-ce que les municipalités vont faire des opérations frein moteur? Je n'ai pas entendu à ce jour. Fait que c'est juste d'essayer d'être un peu tolérant envers la population. Entre, je ne sais pas moi, 22h et 6h du matin, on peut peut-être oublier de mettre le frein moteur. Mais dans des côtes, c'est une nécessité, selon moi, parce que, mettons, on va à Baie-Saint-Paul ou on va dans des secteurs où il y a beaucoup de côtes. Ça paraît pas, mais ça peut sauver des vies que de descendre les côtes avec un Jake Brake. Lui, il va vous ralentir sans que vous ayez à toucher la pédale de frein. Puis un frein, ben par la physique, plus vous appliquez le freinage sur votre véhicule, plus le frein vient chaud. Et plus le frein vient chaud, moins on est capable de freiner. Donc, perte d'adhérence. Et puis, c'est pour ça, des fois, que vous allez entendre des histoires qu'au bas d'une côte, bien, il est passé droit un camion qui ne semblait pas avoir de frein. Mais le disque vient tellement chaud que lorsque vous appliquez le freinage, on appelle ça classer un frein, mais quand vous appliquez le freinage dessus, il n'y a rien à faire. Ça peut même, dans certains cas, prendre en feu quand les freins viennent tellement chauds.
Ah ouais.
Ben, un camion, c'est freiné avec des systèmes à air. Donc, quand il y a une fuite d'air, le frein s'applique par sécurité et il se détend pas. Essaye de trouver bon terme parce que normalement, je te parlerais tout ça en anglais. Mais quand on relâche le frein, bien, c'est que là, on remet de l'air dans notre chose. Puis quand le frein s'applique, c'est qu'il y a moins d'air dans notre système. Et puis, des fois, tu sais, tu vas voir des remorques qui ont pris en feu par un essieu en arrière. Bien, c'est le frein qui, bon, a perdu un peu d'air dans le système. Et là, il s'est appliqué, il a frotté, il a chauffé, le feu a pris. Puis ça met le feu à une remorque, là, tu sais. Puis c'est arrivé, il y avait des remorques, sans les nommer, là, ouais. À un moment donné, il y avait un trouble de ça. Et plusieurs remorques ont pris feu à cause que le système pneumatique n'était pas adéquat ou qui n'était pas intact de fuite d'air, là.
Est-ce que moi, avec mon camion, avec mon Wrangler, quand je ralentis, exemple, dans une sortie d'autoroute, c'est bien rare que je touche à mes freins, là. Tu sais, je décompresse, je passe de la cinquième vitesse à la quatrième, à la troisième, à la deuxième, à la première. Ce qui fait en sorte que, tu sais, je regarde tous les véhicules que j'ai eus depuis mes 16 ans, c'est bien rare que je passe au travers de deux sets de freins, bien honnêtement. Est-ce que les camionneurs sont encouragés à essayer d'économiser justement le type d'outils sur leur camion?
Jamais au détriment de la sécurité, mais les freins sur un camion vont durer excessivement longtemps versus peut-être ton véhicule perso que tu fais beaucoup de ville. Un camion, ça fait beaucoup de longues distances, donc... C'est pas rare qu'on bat des records avant de changer un système de freinage. Puis tout est dans la conduite aussi. Un camion va demander beaucoup de puissance au freinage, mais un professionnel va anticiper à peu près tout ce qui se passe sur la route. Il sait qu'une lumière rouge en avant, il est à quelques centaines de mètres de la lumière. Il ne fera pas exprès pour peser comme, tu sais, un véhicule, lui, ben on est pareil des fois avec un véhicule personnel. On attend d'être à peu près à 50 pieds de la ligne d'arrêt, puis là, on règle. Un camion, lui, va décélérer, va enlever des vitesses, va ralentir, va mettre le jake brake et va se ralentir à tel point qu'il n'aura peut-être même pas besoin de toucher au freinage. Ouais.
Mais l'idée, c'est un peu ça. T'sais, j'ai eu quelqu'un qui a fait partie de ma vie pendant quelques années. Écoute, t'as quasiment deux sets de freins par année. J'étais là, mais écoute, il faudrait peut-être que tu utilises une autre façon là, de conduire. Ça n'a pas de bon sens. Puis le mécanicien, il venait qu'en rire parce qu'il la connaissait. Puis il disait, bon, t'es peut-être pas la meilleure conductrice. Là.
On veut son nom.
Mais écoute, je nommerai pas son nom, mais à un moment donné, j'ai embarqué avec elle, puis sans lui dire, j'essaie de surveiller, voir si elle conduisait à deux pieds sur son véhicule qui est automatique. Parce qu'il y en a qui font ça encore, là.
Quand tu suis quelqu'un, puis que les lumières à frein allument de temps en temps, souvent, ils sont à deux pieds.
À deux pieds, là. Ben oui.
Oui. Puis le pied gauche, il devrait être juste dans l'espace pour... relaxer, là. Il y a comme un espace, laisse le pied là. Puis avec le pied droit, ben c'est l'accélérateur et le frein. Mais c'est vrai qu'il y en a qui bouffent des freins en quantité industrielle. Puis je ne sais pas si c'est ma carrière de camionneur qui m'a emmené vers là, mais mon dernier véhicule, je l'ai changé au garage, j'avais 170 000 km. Je n'ai jamais touché au frein, même pas aux plaquettes, rien. Puis quand je l'ai vendu, le garagiste m'a dit, il dit, « Ouais, il dit, t'as refait les breaks quand? » J'ai dit, « Jamais. » Il dit, « Ça se peut pas. » Ben, j'ai dit, « Je suis pas quelqu'un qui touche au frein de nature, là, tu sais, le moins possible. Mais quand ça arrive, je freine. » Ben, il dit, « Tabarnouche. » Il dit, « Ils sont encore bons. » Il dit, « Je vais pas me le vendre tel quel. » Il dit, « Il y a même pas besoin d'être changé ou quoi que ce soit. Peut-être les plaquettes, là, mais à part de ça. » Mais on fait ça, tu sais, dans le fond, je pense que il y a bien des gens, tu sais, il y a eu... une couple d'années, Yann, où il n'y avait plus d'obligation d'aller suivre une formation de conduite. OK? Puis je pense que ça a été pendant quelques années. Après ça, ben, on a réintroduit le cours de conduite automobile. Puis que moi, je pense que, tu sais, suivre un cours, là, c'est jamais de trop. Suivre une formation, c'est jamais de trop. Puis quand un formateur est capable de t'enseigner la meilleure façon de conduire, tu vois une lumière ou tu vois un arrêt, c'est pas de peser. Puis quand tu vois l'arrêt, là, t'es deux pieds sur le break, puis, tu sais, c'est dur pour la mécanique de votre auto. Puis, juste le fait d'être capable de dire, bon, ben je vois que la lumière est rouge. Et puis, à cette heure, on met des fois quelques centaines de mètres avant, là, un panneau qui dit, il y a une lumière dans quelques mètres, et puis, il y a comme des avertisseurs orange, là, des flashers orange. Bien, ça nous donne le temps de relâcher la pédale de gaz, puis de se laisser aller jusqu'à la lumière. Là. De toute façon, on ne gagnera pas de concours de vitesse, puis être arrêté à lumière ou décéléré jusqu'à lumière, bien, ça coûte moins cher décéléré jusqu'à lumière. C'est tout simplement ça.
Ouais. Depuis des années et des années, on parle de l'alcool au volant, tant pour les gens qui sont sur les motos, sur les autos, sur les camions, sur les trucks. Jases régulièrement avec les contrôleurs routiers. De par ton métier, tu n'as pas le choix. Tu parles avec les camionneurs, mais aussi les contrôleurs routiers, Benoît Terrien. L'alcool, on le sait, c'est zéro. Il n'y a pas de débat là-dessus. Là. C'est quand tu es un camionneur, quand tu as une charge derrière toi, tu dois prendre tes responsabilités. T'as pas le droit de prendre un verre avant de prendre le camion. Sans quoi, si tu te fais prendre, t'es dans le trouble comme pas possible. Est-ce que le cannabis, on a émis à peu près les mêmes recommandations?
Le cannabis, c'est la même chose. Dans le cas de l'essence, l'alcool, c'est 0,05.
OK. Ah oh, oui, parce que tu vois, je pensais que c'était la même affaire que les pilotes d'avion. Là. C'était tolérance zéro pour ce qui est des, de l'alcool.
Mais la SAC en a décidé autrement. C'est 0,05 de limite d'alcool dans le sang. Ça veut dire probablement une bière sur l'heure du midi. Puis après ça, pas plus. Peut-être à la limite 1,5, je ne sais pas. Le cannabis, ben c'est... Au Canada, c'est pas réglementé. Yann, moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais si je suis camionneur interfrontalier, ça veut dire que je pars d'ici, de Québec, et puis je vais à New York ou quelque chose, je suis obligé de faire partie, selon mon employeur, d'un pool. Et ce pool-là, ben, à ton embauche, moi, je te fais faire un petit pipi dans un pot et je vais l'envoyer à ce consortium-là qui, lui, va faire une analyse d'urine à savoir... Est-ce que tu as de l'alcool au moment où j'ai pris l'urine? Est-ce que tu avais du cannabis? Est-ce que tu avais d'autres substances? Ça pourrait être de la cocaïne ou d'autres drogues dures. Et si je détecte ça, c'est terminé. Tu ne vas plus aux États. Ou si tu es capable de l'expliquer parce que, bon, je ne sais pas moi, le médecin t'a prescrit quelque chose, on l'a détecté dans ton sang, bien, tu vas être en mesure de l'expliquer. Et c'est le médecin au bout du téléphone qui t'appelle. Et seul ce médecin-là va être en mesure de juger ton aptitude à conduire aux États-Unis ou non. Et si tu changes de compagnie, ben tu vas peut-être changer de consortium de détection de drogue et alcool, mais ça va te laisser quand même dans un pool. Puis ça, c'est aléatoire. Ça veut dire que je te drogue teste aujourd'hui, on est mercredi le 8 mai, ça se peut que le 12 mai, je te redemande un autre test. C'est le consortium qui va envoyer des tests à l'entreprise et qui va dire Yann Marceau, Benoît Terrien et n'importe qui d'autre, je veux une analyse. Donc, quand je reviens, l'employeur va dire Yann, passe à mon bureau, on a un drug test à te faire. Et puis, c'est assez sévère parce que quand tu rentres dans un local de l'entreprise où il y a un drug test, les lavabos, où ce que l'eau, les champleurs, là, ben c'est tapé. On met du liquide bleu dans la toilette, tu sais, pour être certain que tu n'iras pas diluer en quantité avec de l'eau ou quelque chose comme ça, pour être certain que tu veux cacher ta consommation de drogue, là, tu sais. Mais au Canada, je pourrais techniquement fumer un joint en ce moment, partir à 10 heures ce soir et j'aurai pas de drug test. Parce que, bon, les assurances sont peut-être moins stiffes là-dessus ici, sachant qu'on pourrait peut-être porter des accusations, mais est-ce que ça paraît tant que ça que quelqu'un a fumé un joint? Je ne sais pas.
C'est particulier tellement. Parce que à partir du moment où les agents évaluateurs, ça, c'est pour ce qui est de la police, je ne sais pas comment ça fonctionne pour ce qui est des contrôleurs routiers, mais dans la police, ils ont formé des agents évaluateurs, ce qui fait en sorte que, oui, la machine là, pour mesurer le degré d'alcool que tu as dans le sang est hyper importante, dans la laine, en fait, est hyper importante, mais tu as l'agent évaluateur aussi qui était formé tant pour l'alcool que pour les drogues, puis j'avais vu comment ça se passait, puis c'est un processus qui est très rigoureux. Là. De un, on te fait sortir du camion. Après ça, on te fait faire certains tests physiques où tu dois faire ce que le policier te demande. Et si le policier est encore dans le doute, là, il y a un agent évaluateur qui est appelé. Toi, tu t'embarques dans le véhicule, tu t'en vas à la station de police et là, on te met dans une chambre noire. On te mesure la pupille par rapport à tel degré d'intensité de lumière et tout ça. Je veux dire, c'est un processus qui était très, très, très rigoureux. Mais j'ai pas l'impression que les contrôleurs routiers fonctionnent à peu près sur le même principe. Donc,
Les contrôleurs routiers n'ont pas de tests comme tels. puis normalement vont faire appel à leurs confrères de la Sûreté du Québec.
OK, OK.
Ou vont exiger de la Sûreté du Québec de faire une analyse sanguine
okay.
pour éprouver très rapidement que le conducteur était gelé ou avait bu quelques bières ou tout ça.
Ouais.
Puis le grave problème dans tout ça, c'est que si ça sent pas le pot, là, tu sais, et t'as pas l'haleine de pot, c'est dur en maudit, tu sais, puis on le sait tous, le monde va croquer un oignon pour se changer l'haleine, ça marche pas tout le temps.
C'est l'oignon, mais... Ben, le truc, merci de me le donner, moi je savais pas, tu sais, quand tu prends pas ça, tu prends pas les trucs qui viennent avec, c'est l'oignon, OK.
Je connais des gens qui disent ça marche à tout coup, parce qu'on pue tellement en mangeant que, tu sais, mais c'est parce que on devrait être professionnel. On
s'est
dit professionnel, on ne devrait jamais utiliser une substance X pour se montrer vers un I, je ne sais pas. Mais tu sais, ne pas consommer, ne jamais consommer au volant. Mais on habite au Canada, c'est légal de prendre du pot et la fonction de camionneur au niveau canadien n'a pas de réglementation. Il peut y avoir des réglementations au sein des entreprises, mais il n'y a pas de réglementation canadienne qui dit un chauffeur de truck, c'est tolérance zéro. Je te disais pour la consommation d'alcool, c'est 0.05 pour un camionneur. Fait qu'il y a quand même une tolérance. Va prendre une bière à midi, puis tu conduis ton truck. T'sais, moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Il y avait un truck stop à Vaudreuil avant qui avait un bar à l'intérieur du truck stop. Ça veut dire que tu finissais ta journée, tu pouvais aller t'inquiéter. J'ai pas de problème avec ça, mais je suis pas mal sûr qu'il y en a qui ont parti avec des camions et qui n'étaient peut-être pas à jeun, là, tu sais.
Okay.
Fait que quand on offre ça, tu sais, on pourrait aller à SAQ, on pourrait aller partout en camion puis s'acheter qu'est-ce qu'on veut consommer, sauf que du moment qu'on est professionnel puis les écoles de formation vont vous le rentrer dans la tête, vous êtes des professionnels, bien, allez pas jouer avec de l'alcool
ouais.
ou du cannabis. Puis même si c'est légal au Canada, tu sais que tu pars... Demain matin, va pas te geler la face à soir, là. T'sais.
Je comprends. Tu l'as dit tantôt, les règlements sont différents au Canada puis aux États-Unis. Au Canada, bon, tu peux consommer de la marijuana. Comment ça fonctionne, rendu aux douanes, pour ce qui est de ces camionneurs-là qui consomment une fois de temps en temps? Est-ce que le douanier, s'il perçoit que le camionneur il a les yeux un peu rouges, que ça sent le weed un peu, c'est un automatisme, là? Tu t'en vas sur le côté puis tu fouilles le camion complet?
S'il sent que tu es intoxiqué, lui, ce qu'il va faire appel, c'est probablement plus à la police de l'État. Tu traverses dans l'État de New York, il va faire venir un policier de l'État de New York, regarde ce camionneur-là, j'ai des doutes, tout ça. Ou le département du transport de l'État, ça pourrait être les deux mêmes. Ça veut dire que si j'ai des doutes sur un conducteur, je le trouve gelé comme une balle, bien, va-t'en sur le côté, il y a quelqu'un qui va venir te voir et j'appelle les policiers, les corps policiers locaux. Mais normalement, aussitôt qu'on est un camionneur qui traverse la frontière, on est soumis aux drug tests, donc on ne devrait pas consommer. Et à chaque... Tu sais, je ne pourrais pas te dire combien le cannabis reste longtemps dans notre système. Là. On me dit 7 jours des fois, puis il y en a qui disent plus. Mais advenant le cas que je fume un joint aujourd'hui, puis que demain je suis drug testé, on va le déceler dans mon analyse d'urine. Et on va me mettre au rencard tout de suite. C'est terminé. Tu n'as plus le droit d'aller aux États-Unis comme conducteur poids lourd. Il n'y a pas de... À moins que je sois capable de l'expliquer. Et comme je disais tantôt, seul le médecin qui va prendre contact avec toi va juger. Oui, mais Monsieur Marceau, c'est parce que vous avez le droit peut-être pour votre maladie d'en consommer, mais vous êtes camionneur, donc je ne peux plus vous laisser aller aux États. De même que si c'est du cannabis médical... parce que, bon, on sait qu'il y en a qui ont comme une genre de prescription, mais tu n'as pas plus le droit de la transporter de l'autre côté. Rendu à la douane, là, le cannabis, si on en trouve la moindre bout d'épingle, c'est terminé, là, tu sais.
Donc, il n'y a pas de chance à prendre. OK.
Non.
Pour ce qui est des contrôleurs routiers, est-ce que c'est réglé, là, le fameux débat sur le port d'armes? Est-ce qu'on a pris une décision dans ce dossier-là?
En fait, ils se sont retrouvés devant les instances. Il y avait la CNESST dernièrement. Est-ce que ça va aller en ce sens? Je ne sais pas. Ça, c'est un débat qui suscite beaucoup de divisions dans notre industrie, Yann. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, dans le sens où je le sais que 98 % des camionneurs auront jamais besoin de rencontrer un contrôleur routier armé. Pourquoi? Parce que si on se fait intercepter, bon, on donne les documents requis, on ne s'ostine pas, on fait notre job professionnel. Merci, monsieur l'agent. Au revoir, monsieur l'agent ou madame l'agente. Mais dans le cas où de plus en plus de cargaisons sont transportées avec des matières illicites, il y a de plus, tu sais, il y a eu les vols d'automobilistes, d'automobiles qui se sont retrouvés dans des containers à Montréal. Bien, ça devient aussi peut-être difficile pour un contrôleur qui a à peu près juste du poivre de Cayenne d'être capable d'intercepter, je ne sais pas moi, deux colosses dans un véhicule qui dit « qu'est-ce que tu fais ici? » Puis il est 2 heures du matin et tu es tout seul avec ces deux personnes-là. Bien, tu auras un choix peut-être de te défendre qui serait plus convaincant qu'une bonbonne de poivre de Cayenne, tant qu'à moi. Mais dans le cas où il y a 95 % des camionneurs qui sont probablement jamais fautifs, jamais à trouble, jamais à risque, c'est un débat qui polarise beaucoup les camionneurs. Assez que je dirais qu'à date, aussitôt qu'on poste quelque chose sur le fait que les contrôleurs routiers ont une nouvelle à divulguer, ça y est, ils sortent ça pour le port d'armes et tout ça. Puis là, ben, on les dénigre en disant qu'ils auraient dû suivre une formation à Nicolet pour devenir policier ou même les rumeurs qu'ils auraient dû être policiers, ils ont échoué les tests, ils sont devenus contrôleurs routiers. Il faut dire que c'est deux classes de métiers différents. On applique pour être contrôleur routier, on suit la formation et non pas j'applique pour être policier, puis si ça ne marche pas, je deviendrai contrôleur routier. C'est deux jobs différents. Fait que, tu sais, il faut démystifier ça, quoi qu'il y en a qui aiment continuer à propulser ces mythes-là. Mais il y a une chose qui reste indéniable, c'est qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que je ferais ce métier-là avec mes deux bras, puis je rencontre deux colosses à 2 heures du matin qui commencent à me faire un petit peu la morale. Je ne suis pas sûr que j'aurais le goût de les arrêter. Puis je ne suis pas sûr qu'au moment où on se parle, tous les contrôleurs routiers, puis on pourrait probablement jamais avoir la réponse, mais peuvent intercepter rendus dans un rang à ces heures-là, puis dire, bon, mais je vais caler du backup, mais le backup est à 20 minutes. Fait que là, tu as 20 minutes où tu peux avoir la vie dure. Fait que moi, je soupçonne que des fois, on lève les yeux sur bien des choses de peur d'avoir ou de manger une volée. Puis c'est arrivé, là, tu sais, il y a des exemples là, sur le web où il y a des contrôleurs routiers, routières qui ont mangé des volées pour avoir intercepté des gens. Il y en a une dernièrement dans le coin de Mirabel pour quelqu'un qui n'a pas respecté le corridor de sécurité et est parti après, même si c'est un automobiliste. Puis il a sacré à voler, là. Il l'a couché à terre, puis tu sais...
Je comprends que c'est de la rage, puis ça n'a pas lieu d'être, mais il faut être un peu cave aussi. En plus d'être enragé, il faut être un peu cave, parce qu'avant que le contrôleur routier t'intercepte ou avant que le policier t'intercepte, ta plaque d'immatriculation est entrée directement dans l'ordinateur. Il va s'assurer de rentrer des informations de base, parce que s'il arrive quoi que ce soit, il faut te retrouver très rapidement. Donc les gens qui sont extrêmement agressifs envers les policiers ou les contrôleurs routiers, ça sachez que vous allez vous faire reprendre. Si ce n'est pas là, ce sera plus tard. Là où je me pose...
Et quand, Yann, par exemple, durant la pandémie, là, parce qu'un contrôleur routier n'a peut-être pas les mêmes points qu'un policier. Un policier, tu ne t'ostines pas longtemps, tu sais que tu peux être dans le trouble. Le contrôleur routier, il y en a par méchanceté ou peu importe, qui vont les challenger. Dans le cas de la pandémie, il y a des contrôleurs routiers qui ont demandé des permis de conduire. Mettons, bonjour, monsieur le camionneur Marceau, pouvez-vous me donner votre permis de conduire? Bien, durant la pandémie, on le sait tout le monde avait peur de la fameuse bébite. Bien, ce que certains camionneurs ont fait, lichaient le permis de conduire, puis ils disaient, tiens, le veux-tu? Fait que, tu sais, il y avait comme un genre de défi, puis je le sais, c'est pas drôle, mais il y avait ce défi-là qui était fait. Puis qu'est-ce qu'un contrôleur ou une contrôleuse a comme moyen dans ce temps-là de dire, ben, je vais le prendre en photo, hein, montre-moi-les, puis je vais le prendre en photo. Fait qu'il faut être plus intelligent que la personne qui a liché le permis de conduire. Mais on est, tu sais, c'est juste là, ce bout-là. Est-ce qu'on pourrait peut-être juste leur donner un peu plus de pouvoir que lorsqu'on intercepte quelqu'un qui ne veut pas obtempérer, ben, ça va aller plus loin tout de suite que d'essayer de négocier. sans avoir de pogne ou de grippe dans la loi.
On va parler de plein d'autres sujets avant, mais après la pause. Mais juste avant, tu sais, moi, je me souviens d'avoir eu des discussions avec mes grands-pères. Moi, d'un bord comme de l'autre, mes grands-pères étaient policiers. Puis c'était pas des gens qui avaient passé par l'école, qui étaient des premiers de classe et tout ça. T'sais. Même mon arrière-grand-père était policier aussi. Puis, tu sais, toutes les histoires que ces gens-là ont recueillies et m'ont racontées par la suite, je trouvais ça exceptionnel. Dans le temps, c'était pas... si tu étais choisi pour être policier, tu n'étais pas choisi parce que tu étais l'être le plus intelligent de la planète. Tu étais choisi parce que quand tu arrivais dans une place, les gens savaient que tu en imposais, tu sais. Aujourd'hui, les policiers, les policières sont choisis en raison de leurs notes puis de leur performance scolaire, puis leur peut-être aussi un peu une partie de leur attitude, mais on a ouvert le métier de policier à des gens qui, au niveau c'est pas des gens qui sont très physiques, t'sais. Tandis qu'avant, c'était « Est-ce que tu as un bon jugement? » »« Oui, tu as un bon jugement. » »« Est-ce que tu as la taille pour être policier? » »« Oui, tu as la taille pour être policier. » Puis là, ben, tu pouvais rentrer à l'école de police. Puis si tu étais un bon étudiant, ben, tu pouvais sortir de l'école de police puis devenir un policier. Aujourd'hui, on voit des gens qui n'ont jamais eu le contrôle au secondaire. À chaque fois qu'ils rentraient dans une place, les gens les ignoraient. Puis là, les autres étaient un peu fâchés de ça. Ils arrivent, je pourrais rentrer comme policier. Là, on va me respecter au moins. Puis ça arrive à côté de toi avec une petite attitude. Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ce que je dis là présentement, mais c'est souvent ce que je me fais raconter. C'est que avant, le policier avait juste besoin de dire est-ce que vous pouvez me donner votre permis de conduire. Puis là, les gens, sans se soucier si le policier était armé ou non, ils regardaient le gars, puis ils savaient que tu devais pas niaiser avec ce type de gars-là. Puis ils donnaient le permis de conduire tout de suite. Aujourd'hui, c'est monsieur et madame tout le monde qui peuvent faire ce métier-là. Puis malheureusement, il arrive des histoires épouvantables comme se faire licher le permis de conduire dans la face, puis après ça, essayer de te le donner dans les mains. Moi, c'est le genre de choses qui me fâcheraient. T'sais, on a changé un peu la façon de faire pour recruter nos fameux policiers. Puis pour ce qui est des contrôleurs routiers, c'est le même processus. Là. C'est des gens qui postulent, puis s'ils ont des bonnes notes à l'école et tout ça, il y a un processus qui est là, puis pouf. Mais est-ce que c'est des gens qui en imposent physiquement? Trop peu souvent.
Bien, c'est qu'on a des cas-problèmes dans notre industrie. Il y a sûrement des cas-problèmes aussi au niveau des contrôleurs routiers, comme il doit y avoir des cas-problèmes dans les policiers. L'attitude fait fi de tout, là. Si j'ai une bonne attitude, normalement, je ne devrais pas avoir de problème. C'est sûr que si je me fais grêler par un contrôleur routier, ça se peut que je dise « Monsieur ou madame, ben, tu sais, je pense qu'on ne s'entendra pas, remettez-moi l'infraction, j'irai la contester, et puis bonsoir ou bonjour, là, tu sais, ça se termine là. » Mais de confronter, ça ne sera jamais la bonne façon.
Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. C'est juste que, tu sais, moi, j'en ai vu des affaires là, où des gens niaisent des petites personnes, entre guillemets, qui sont policiers, policières. Tu sais, je trouvais ça épouvantable. Le gars, il tenait son permis de conduire pour le donner à la policière. Puis la policière n'était pas capable de prendre le permis de conduire, obligée de caller un backup dont il y a deux policiers qui arrivent pour dire au gars, là, tu vas arrêter de niaiser, tu sais. Fait que je comprends, tu sais, les hommes et les femmes ont leur place dans la police, mais on dirait qu'on niaise plus aujourd'hui l'autorité qu'on le faisait dans le temps, parce que dans le temps, l'autorité, c'était vraiment l'autorité. Si tu donnais pas le permis de conduire, il t'écrasait et pousse jusqu'à temps que tu lâches prise sur le permis de conduire en te regardant dans les yeux puis en souriant, là.
Oui, puis on pesait plus fort sur l'infraction.
Ben oui.
Puis, tu sais, imagine qu'il y aurait un policier qui se nomme policier sur les réseaux sociaux. J'aimerais pas recevoir les tonnes de menaces ou de messages qu'ils doivent recevoir parce qu'on a deux types de vie aujourd'hui. On a notre vie sur les réseaux sociaux, on est des keyboard warriors et on a aussi notre vie dans la vie de tous les jours où des fois on peut dire hey, maudit agent de policier puis tout ça. Mais respectez donc la loi, respectez donc l'ordre. Puis de toute façon, si vous êtes en désaccord avec ces gens-là, il y a des mécanismes qui vous permettent de vous défendre. Il y a des codes de déontologie, il y a aussi même d'aller contester votre infraction, puis vous risquez probablement, si vous êtes préparé, puis vous pensez, vous pouvez peut-être gagner votre sanction, puis vous allez être capable de dire, bon, je trouvais que l'infraction était trop sévère, on me l'a peut-être réduite ou on me l'a enlevée tout court, fait que c'est réglé, bonsoir. Puis quand il y a des gens qui me disent, moi, les contrôleurs routiers s'acharnent sur moi, bête valeur, mais je pense pas que si tu rencontres 10 contrôleurs routiers dans tes deux dernières années que c'est de l'acharnement, ça peut être un coup de luck, mais c'est parce que peut-être que dans le système, été reconnu comme quelqu'un étant peut-être un petit peu hors la loi, puis on t'a pogné dans le passé, puis on dit, bon, t'es la parfaite personne pour s'en aller en arrière du poste de pesée, puis qu'on contrôle, voir si tout est correct, si tout est légal dans tes affaires. Puis si tout est légal, on te laisse aller, puis ça, j'imagine c'est comme un dossier de crédit. Tu gagnes à passer devant les contrôleurs routiers, puis quand tu as des bonnes notes, ben on t'achale moins, là, tu sais.
Exactement. On est avec Benoît Therrien de Truck Stop Québec. On parle de camionnage ce soir et reste là parce qu'après la pause, on a quelques histoires à vous raconter. Vous n'en reviendrez pas. Truck Stop Québec, c'est truckstopquebec.com?
Effectivement, ou sur Facebook.
Courte pause, on y va. Benoît Therrien de Truck Stop Québec est avec nous encore pour quelques minutes, puis je vous l'avais promis, on a des histoires à vous raconter, des histoires à bracadabrandre. Je peux pas croire qu'en 2024, il y a des gens qui se font prendre en conduisant un gros camion puis en écoutant Netflix, Ben.
Yann, je veux pas trop dénoncer là-dessus, là, mais c'est pas un cas isolé.
Écoute, je vois la photo du gars, là. Le gars s'est installé un genre de cellulaire à l'horizontale, puis il s'est mis des bouts de carton tapés pour se faire le plus possible de noirceur alentour de son écran pour pouvoir écouter Netflix. Je ne sais pas si c'est fait prendre par un flic, mais le flic devait halluciner de voir l'installation, là.
En fait, c'est un camionneur du Tennessee, puis au Québec, on en a, là. Qui va devoir faire face à des accusations après qu'il est arrivé un tragique accident de la route. Il écoutait Netflix au volant. C'est survenu dans l'État du Minnesota en 2023, à l'été 2023. On l'a accusé de deux chefs d'accusation d'homicide involontaire puis d'un chef d'accusation de conduite dangereuse causant la mort. C'est à la suite d'un accident qui a entraîné le décès d'un couple originaire de l'Iowa. Tu sais, quand tu conduis, puis que c'est plus important de regarder ta série favorite sur Netflix, hey. On est dans chenoute, là, puis pas à peu près, là. Puis souvent, on dénonce les cas de cellulaire au volant. Tout ce qui peut être un attrait autre que le devant du camion devrait pas avoir lieu dans notre industrie. J'en connais, là, tu sais, puis même encore, là, des gens qui textent à côté, qui font du, comment t'appelles ça, le Messenger Live, là, et qui font ça à journée longue. Tu sais, t'as pas le droit de faire ça. Même s'ils disent, ah, ben là, il est sur son socle, tout ça, mais il a fallu que tu le pitonnes pour en arriver là. Fait que c'est de là, puis toute, en fait, toute distraction au volant est coupable d'une infraction quelconque. J'ai eu la chance dans ma carrière, et puis j'espère que j'aurai encore cette chance-là d'être invité par Contrôle routier Québec pour aller faire ce qu'on appelle l'opération autobus. On s'assit d'un autobus nolisé. Il y a des policiers qui s'assoient à l'arrière du véhicule et d'autres qui s'assoient à l'avant du véhicule. Nous, ben, on peut être dans le milieu. Et là, tu entends, disons, les policiers de la SQ en arrière dire « Le camionneur a le cellulaire dans ses mains. » Et là, c'est corroboré par Contrôle routier Québec et Contrôle routier par les ondes appelle un patrouilleur, dit telle compagnie de transport avec la plaque telle, cellulaire au volant. Fait qu'il se fait arrêter, tout ça. Les policiers en interceptent beaucoup. Puis la beauté d'un autobus nolisé, c'est que c'était des fenêtres limousines. Fait que tu vois pas à l'intérieur, tu sais pas que c'est des policiers. Puis que l'autobus soit illettré, intercar, Keolis ou peu importe, bien, t'es pas en mesure d'identifier qui regarde quoi à l'intérieur et y empogne un puis un autre. Puis on a qu'à se promener nous-mêmes sur les routes. Combien de fois vous voyez quelqu'un avec la lueur dans le véhicule le soir ou même dans le camion qui utilise le cellulaire? Ça devrait être proscrit. J'ai connu des gens dans le passé, puis je m'ostinais avec eux autres. « Ouais, mais pourquoi t'écoutes ta tablette? Tandis que tu roules, ben, je regarde pas l'image, j'écoute le son. Ouais, ça fait pas sérieux, ben, parce que tu sais que tu vas regarder l'image quand il arrive un bout où que il y a de la bataille ou il y a des explosions ou il y a quelque chose.
Une scène de sexe dans la série Vikings, tu regardes pas ça pantoute. Si je vais juste me contenter d'écouter le son dans la série Vikings, hey, tabarouette, c'est sûr et certain que tu regardes l'écran. Là. Mais non, ils peuvent pas nous raconter n'importe quoi. On n'est pas fous à temps plein, Ben. Quand ils nous disent, on écoute Netflix, mais on regarde pas l'image, hey, calmez-vous. Là.
Ben non. Puis dans le cas du monsieur qu'on parle présentement, effectivement, il avait inventé une espèce de kit de carton avec une boîte pour avoir le moins de soleil possible parce qu'un écran, puis lui, il l'avait mis sur le dash, là, sur le dessus du dash, patenté là, pour être en mesure de mettre le plus de noir possible d'ombrage à son écran pour voir la série comme il faut. Puis on le sait, à chaque fois que vous êtes distrait, vous ne regardez pas en avant, ben c'est plusieurs centaines de mètres qu'on a perdu de vue. Puis s'il y a un véhicule qui est arrêté là ou que le trafic est arrêté là, je peux vous dire une affaire, c'est que vous allez vous en rappeler longtemps, puis il y a risque de décès, comme il est arrivé là. Puis on ne devrait pas accepter ça. Vous ne devriez jamais accepter ça, puis ça ne devrait jamais être toléré. On devrait même dénoncer, si on voit ça sur les routes du Québec, de voir des agissements comme ça. Puis là, ben à chaque fois qu'on en pince un comme ça, ben il y en a d'autres qui vont dire « Ah! » Ouais, OK, là, ils vont le savoir que je fais ça comme ça. Fait que là, je vais être plus ingénieux, je vais cacher mieux mon téléphone, je vais le mettre dans le cup holder ou je vais le mettre sur le dash quelque part. Mais le soir, vous allez vous faire trahir parce qu'on va voir la lueur. Puis on va s'apercevoir que ça change. Comme une TV le soir dans votre salon avec pas de lumière, ça fait des reflets. Bien, ben à un moment donné, on va s'en apercevoir dans votre camion. Puis ne vous surprenez pas un jour, peut-être, qu'on vous regarde d'un viaduc, qu'on vous regarde d'un autobus ou qu'on vous regarde aux États-Unis, les contrôleurs routiers américains ont cette façon de faire-là. On s'assoit dans un camion avec une remorque en arrière et le conducteur est un contrôleur routier, le passager est un contrôleur routier ou un policier. Et bon, quand on dépasse des véhicules, on regarde ce qui se passe à l'intérieur et quand on dépasse des camions, on regarde aussi ce qui se passe à l'intérieur du camion. On intercepte les fautifs. Tôt ou tard, vous allez payer, puis au Québec, c'est assez cher, là, un cellulaire au volant. Dans le cas qui nous parle présentement, ben c'est probablement une sentence qui va lui retirer sa classe de permis de conduire commercial.
Mais tu sais, au-delà de ça, quand tu es camionneur puis tu te fais prendre avec le cellulaire au volant, bon, tu as des points de démérite que tu accumules, mais la flotte aussi de véhicules, tu sais, ton entreprise commerciale va accueillir ces fameux points de démérite aussi de son côté. Oui. Donc, lorsque ce sera le temps de renouveler, ben, ça va coûter nécessairement plus cher à l'employeur qui t'a embauché puis qui te faisait confiance.
Mais tu emmènes un bon point, Yann, parce qu'au Québec, je me ferais prendre comme camionneur, disons, je ne sais pas moi, 80 km/h d'une zone de 50. Je vais perdre des points sur mon permis de conduire, mais il y a la Commission des transports du Québec qui va aussi prendre mon ticket et qui va dire au volant d'un poids lourd, tu travailles pour Transport Yannick Marceau. Transport Yannick Marceau va perdre des points sur son permis de transporteur, pouvant aller jusqu'à révocation complète. On ne va pas là souvent, mais ça pourrait aller jusqu'à une révocation. Normalement, toutes les entreprises de transport ont la cote satisfaisante, donc qui respectent toutes les normes et tout ça. On a un ticket, deux tickets, trois tickets. Et selon la gravité des interceptions ou des infractions commises, on pourrait changer la cote et demander même, dans le temps où ce que les logbooks étaient papier puis qu'on interceptait, je ne sais pas moi, 10 camionneurs qui avaient des logs du groche, bien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On mettait la sanction insatisfaisante avec une condition de former les camionneurs à savoir c'était quoi un logbook. On le sait tout. Tout le monde le savait c'était quoi. C'était juste une obligation. Puis après ça, bien, on remettait une cote satisfaisante. Puis si jamais on avait d'autres infractions, bien là, on pouvait taper ses doigts. Il y a des compagnies qui ont dû cesser leurs activités au Québec parce qu'il y avait trop de sanctions. Et la CTQ, la Commission des transports, a décidé de les fermer complètement. Mais quand on ferme, là, tu ne pars pas ça sur le nom de ta conjointe, tu ne pars pas ça, c'est quasiment impossible de reprendre, quoi que ça se fait, en ayant un prête-nom. Mais idéalement, c'est qu'on a fermé l'entreprise parce qu'on se dit, vous êtes des dangers au volant, vous n'êtes pas sécuritaire, on n'a pas besoin de vous autres sur la route au Québec.
Benoît Therrien, Truck Stop Québec, pour les gens qui veulent en savoir plus, c'est truckstopquebec.com. C'est toujours un plaisir de te jaser sur les ondes de boulevard. Puis moi, ben, c'est toujours un plaisir de mon côté de vous jaser sur les ondes de Truck Stop Québec chaque lundi vers les alentours de 16h.
Ça se dit mal, Truck Stop Québec. Hein?
Ça se dit bien, ça se dit bien. C'est juste qu'il faut que tu parles en français entre les deux.
C'est ça le bout le plus dur. Merci Yannick.
Puis, salut mon ami.
Bye bye.
Bye bye. Nous, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Max s'en vient dans les prochaines minutes, puis j'aurai le plaisir de vous retrouver demain 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye bye. Marceau.